tous et à toutes. Aujourd'hui, on parle radio dans la lorgnette. Mais pas n'importe quelle radio. On parle de Lorraine Cœur d'Acier, radio associative et syndicale qui s'est installée en pleine cité sidérurgique entre 1978 et 1980. Un projet très court, mais qui a beaucoup compté pour les militants et défenseurs des radios pirates avant l'avènement des radios libres en 1981. À l'occasion de plusieurs représentations en Loir-et-Cher de la pièce de théâtre Longueur d'onde de la metteuse en scène Bérangère Ventuseau, on évoque cette éphémère expérience et son héritage dans le monde médiatique. Parlant de radio, on profite de cette introduction pour continuer à vous alerter sur la menace qui plane sur les radios associatives locales. Le projet de loi de finances 2025 prévoit une coupe importante du fonds de soutien aux radios de l'ordre de 35%. Une baisse aussi forte impacterait le budget de Studios F et de bien d'autres radios locales de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous pouvez manifester votre soutien en sollicitant vos députés et sénateurs locaux, en leur signifiant l'importance des médias associatifs locaux, des voix qu'elles font entendre et de leur rôle dans la démocratie contemporaine. Vous pouvez également faire un don sur le site Hello Asso à la page de Studios F pour nous soutenir. Nous vous tiendrons rapidement informés de ce projet. Merci à toutes et à toutes de votre soutien et bonne écoute de la lorgnette.
Et donc nous nous retrouvons pour cette lorgnette avec Bérangère Ventuseau pour le spectacle Longueur d'onde que l'on vient de voir avec Thomas. Vous êtes la metteuse en scène, vous venez de la région de Longwy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le spectacle pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas vu en quelques mots ?
Alors le spectacle raconte l'histoire d'une radio pirate qui a émis à Longwy à la fin des années 70. C'est une radio qui a été créée par la CGT au moment de la lutte des ouvriers de la sidérurgie qui luttaient contre le démantèlement de toute l'industrie de la sidérurgie à Longwy. Et puis cette radio qui était une radio libre, qui était animée par deux journalistes professionnels, Marcel Tria et Jacques Dupont, a un peu dépassé les prérogatives qui avaient été fixées au départ par la CGT et pour devenir une radio qui a émancipé toute une région en proposant des émissions assez inédites, comme par exemple des émissions sur la condition des femmes, des émissions sur les immigrés faites par les immigrés eux-mêmes, des émissions sur les enfants animées par des enfants. Voilà, donc il y a un peu dépassé le cadre de la simple lutte, quoi. Voilà, donc le spectacle raconte cette histoire-là.
J'avais entendu causer un petit peu de Lorraine Cœur d'Acier.
Non, je sais que vous êtes à peu près la seule radio libre tolérée par le pouvoir, finalement. Je ne vais pas vous emmerder là d'entrée, mais là, je m'inquiéterais.
On est un petit peu brouillé avec vous.
Assalamu alaikum. Oulan, Ranin Stamao, le. النقاش اللي غادي يوقع مع الاخوان العمال المهاجرين باستوديو لورين كور داسي
رابون على الانستان كون nous entend à Strasbourg et à Reims, c'est bien ça Philippe?
Oui, on nous entend très très bien à Strasbourg et à Reims.
Alors vous voyez monsieur les accouchements, ça, c'est en retard tout ça, il faut faire quelque chose, il faut pas laisser les femmes souffrir. J'ai une fille maintenant, je voudrais pas qu'elle souffre ce que j'ai souffert, vous comprenez?
Lorraine Cœur d'Acier, 99 MHz, dans la journée on va changer de fréquence, ça sera 102 MHz.
Alors faites bien attention, prévenez vos copains, vos voisins, etc. Je crois qu'on restera à 102, enfin j'espère si la technique arrête de plaisanter avec les fréquences.
On est quelques années avant la légalisation par Mitterrand des radios pirates. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le contexte de la sidérurgie à ce moment-là et dans cette région-là, en Lorraine ?
Ben, le bassin de Longwy, c'était un des plus gros bassins sidérurgiques de France. Et puis il y a un plan de démantèlement de la sidérurgie qui s'appelait le plan d'Avignon qui a commencé à se mettre en place. Donc les ouvriers ont commencé à lutter en disant, le slogan c'était nous voulons vivre et travailler au pays. Et donc voilà, et ça a duré quelques années. Monsieur Mitterrand, qui à l'époque était en campagne, est venu à Longwy, a promis que la sidérurgie ne fermerait pas et évidemment la sidérurgie a fermé.
Soyez les bienvenus sidérurgistes, mineurs de fer ou de charbon, travailleuses et travailleurs et populations de Lorraine. Bienvenue également aux enseignants, étudiants, collégiens qui sont ici présents, et en particulier aux 100 jeunes lycéens représentant les comités de coordination permanente de Longwy et de Thionville. Bienvenue à la délégation des commerçants de Louis qui ont décidé de fermer leur rideau aujourd'hui pour participer à la marche sur Paris.
Alors, toute ma famille travaillait soit dans la sidérurgie, soit dans les mines, qui étaient des mines de fer et de charbon, qui étaient pas très loin de la sidérurgie, hein, puisque tout ça, pour faire tourner les hauts fourneaux, il fallait du charbon, donc il y avait aussi des mines de charbon pas très loin. Mon grand-père, mes oncles, mes tantes, par contre, mes grands-mères étaient femmes au foyer. Moi, je suis issue de l'immigration italienne. La Lorraine est une terre où il y a eu beaucoup d'immigration italienne, polonaise, maghrébine, pour venir travailler, parce qu'il y avait beaucoup de travail à cette époque dans la sidérurgie. Donc c'est un peu l'histoire aussi de ma famille. Et il y a un ouvrier qu'on entend beaucoup dans la pièce, parce qu'il y a pas mal de sons d'archives dans cette pièce. Un monsieur qui s'appelait, parce qu'il est mort maintenant, Marcel Donati, qui était un grand militant de la CGT, ouvrier lamineur, et qui a aussi participé à cette radio et qui s'est vraiment complètement émancipé grâce à cette radio, quoi.
Eh ben, le micro, pour moi, c'est une revanche. J'ai pas honte de le dire.
Et on a découvert ce que ça voulait dire. Avoir la parole. Et parler.
On peut y aller ? C'est parti.
17 mars 1979, première émission de Lorraine Cœur d'Acier.
C'est parti ?
Petit problème.
Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir.
Ça ne passe plus là.
C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions, écoutez-la, et faites-la écouter.
On voit par l'intervention de plusieurs personnes incarnées par les deux comédiens comédiennes qui sont sur scène que effectivement c'est un outil alors de lutte. Le spectacle commence littéralement par ces mots, la radio comme outil de lutte et puis d'émancipation entre les ouvriers immigrés, les femmes. Donc on voit bien que le média pirate en l'occurrence et plus largement associatif tel qu'il s'est créé sur ce média là a été un vrai vecteur de lien social, de lutte sociale, de lutte des classes. C'est un grand maelstrom en fait d'idées, un grand laboratoire d'idées qui tourbillonne autour du média, piloté quand même par des professionnels, mais autour duquel vont s'agréger énormément d'amateurs et d'un public très général et tout public.
Effectivement, les deux journalistes, Marcel Tria et Jacques Dupont, étaient invités à manger le soir chez les habitants. C'était une manière de réduire un petit peu les frais de la radio. Donc il y avait un grand tableau dans le studio où les habitants pouvaient s'inscrire pour inviter Marcel Tria et Jacques Dupont à dîner. C'était des dîners où c'était un honneur presque de les accueillir, donc les gens mettaient les petits plats dans les grands. C'était une manière à la fois d'établir un lien direct avec la population, mais aussi de pouvoir repérer parmi les gens chez qui ils étaient invités des personnalités qui pourraient prendre en charge une émission. Donc il y a effectivement beaucoup d'amateurs qui ont pris en charge des émissions, des amateurs de jazz qui ont fait une émission assez pointue sur le jazz, des émissions de poésie, de littérature, des émissions d'histoire, j'en oublie plutôt, mais c'est comme ça qu'ils ont fait vivre la radio et proposer des programmes au-delà de leur seul centre d'intérêt et capacité à eux deux, quoi.
Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la mise en avant du droit de réponse, là où nous-mêmes, parfois, même en radio associative, on a des positions et qu'on va peut-être pas forcément chercher, pas le dialogue, mais la représentation de tous les avis. Comment vous trouvez la différence avec notre monde médiatique d'aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'effectivement, les deux journalistes ont dit d'entrée de jeu, nous, on veut que ce soit une radio libre, c'est-à-dire une radio où il y a la parole libre et pas une radio qui reçoit que des gens de la CGT ou des gens de gauche avec une sorte de discours univoque. Donc, ils ont fait venir des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord politiquement en disant, c'est bien, la controverse et la contradiction, c'est important. Et puis, vous, les gens de la CGT, vous êtes assez grands pour leur répondre. Et donc, ils ont organisé des débats politiques qui ont été assez riches. Ce qu'on voit peut-être un petit peu moins aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'on parle un petit peu plus par slogan et que des émissions de fond où il y a réellement des échanges, moi, j'en connais pas beaucoup.
Moi, je voudrais parler d'une dame là qui est venue. J'ai pas entendu son nom. Jean, tu peux nous dire le nom de la dame qui nous a apporté tous ces... je sais pas comment...
Chiffon rouge.
Chiffon rouge, oui, au nom de LCA.
C'est la maman d'Alain Deveau.
Eh ben.
Oui, parce que le chiffon rouge, ça a l'air de te surprendre. Peut-être que tu es au courant. Le chiffon rouge, c'est la chanson de Fugain, est devenu un peu un symbole dans le bassin, symbole de lutte dans le bassin. Tout le monde met ça sur son antenne, tout le monde se balade avec un petit chiffon rouge. Et le disque chiffon rouge nous est demandé pas loin de 10 fois par jour ici.
10 fois, c'est le hit.
C'est le hit, ouais.
Par les comédiens et les comédiennes, des différentes personnalités que vous avez choisi de mettre en valeur au sein du spectacle. Comment c'est joué l'idée de retranscrire la voix de ces personnes-là? On entend quelqu'un, vous laissez une large place par exemple à quelqu'un qui bégaye légèrement. Comment les comédiens ont travaillé pour ne pas être trop dans l'imitation, mais suffisamment dans la reproduction d'une façon de parler, voire d'un accent? Il y a aussi un fond d'accent chez un des personnages. Comment tout ça s'est agencé pour qu'il y ait j'imagine un équilibre un peu subtil entre l'incarnation, le jeu théâtral, et en même temps le respect de voix, de tonalité des voix des personnes?
Le mot que vous avez employé le mot de respect. Et c'est vrai que ça a été ce qui nous a vraiment guidés, d'essayer de pas du tout être surplombant, de pas chercher à imiter ou à en faire un peu des caricatures. Donc de les écouter, puis à un moment donné de les oublier aussi un petit peu, et puis surtout d'être très respectueux de leurs paroles, de leur façon de parler. Surtout que dans le spectacle, on s'amuse à redire, c'est-à-dire il y a une scène qui est jouée par les acteurs, et puis juste après, coller à cette scène, on entend l'archive, et là on se rend compte aussi du travail que fait l'acteur, c'est-à-dire que c'est assez troublant d'entendre l'archive juste après qu'elle ait été jouée. Donc ça, c'est le talent de Hugues de la Salle et Laura Fedida qui interprètent tous les personnages de cette pièce, et puis aussi qui interprètent une partie narrative qui contextualise un petit peu l'histoire de la radio, quoi. On alterne entre des parties narratives et des parties où on rejoue certaines émissions de la radio.
Oui, et puis il y a une partie aussi d'une espèce de façon de jouer du théâtre documentaire. Il faut remettre en contexte le spectacle, organise et remet, réexplique aux spectateurs le contexte, le pourquoi du comment, de certains passages, de certains personnages, etc. Donc il y a besoin aussi d'être purement informatif à certains passages du spectacle.
Oui, absolument. Et puis le spectacle est construit comme ça. Hein. Le début du spectacle contextualise l'histoire de cette radio, c'est où l'on vit, pourquoi ça a été fait comme ça, la lutte des ouvriers, etc. Et puis progressivement, on entre de plus en plus dans les archives des émissions. Et le cap que moi, je m'étais donné, c'était de permettre aux spectateurs de sentir à quel point cette radio avait été émancipatrice. Donc au départ, on entend beaucoup les journalistes et puis de plus en plus, on entend comment les gens... ont pris la parole, des gens qui ne l'avaient jamais. Et donc, je pense que c'est... Il y a un livre que j'aime beaucoup qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Robert Linhart. Le livre s'appelle « L'établi ». Et dans ce livre, il dit, on pense souvent que la bourgeoisie a le monopole des grands récits de vie, mais ils ont surtout le monopole de la parole.
L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Dans ses cheveux, il y a maintenant des fils blancs. Son visage creusé par les soucis est ridé, comme il a vieilli lui aussi. Il a dû faire des heures supplémentaires pour se sortir d'affaires. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Ses mains usées par les travaux ont soulevé tant de matériaux qu'elles ont pris les couleurs des métaux. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, brisé par les travaux, mais je l'aime tant. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, on va le licencier. Et de protester, on ne veut lui laisser le temps. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Je l'ai vu pleurant, serrant les poings, puis luttant. Il a été embauché ici il y a si longtemps. Et des années durant, il a travaillé pendant que le temps passait doucement. Aujourd'hui, c'est le printemps et il n'a plus 20 ans. Pourtant, il doit lutter pour nos enfants. L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans. Il est fatigué. Et cependant, il lutte durement. Et lui qui en parle si souvent, et moi qui l'aime tant, et moi qui désire tant le voir gai comme avant. Mon sidérurgiste, à toi pour le meilleur et pour le pire. On combattra côte à côte pour sauver notre vie. On combattra côte à côte, je suis de ton avis. Oui, c'est notre vie. Oui, on sera encore heureux. Oui, on sera toujours des langoviciens poussiéreux. Et alors, si c'est notre vie, poussiéreux ou pas, il faut la sauver. Ne désespère pas et bats-toi avec moi, pour le meilleur et pour le pire.
Et on voit aussi, et notamment avec la présence, avec les temps qui se jouent autour du studio qui est représenté, que la radio est un média de l'intime. On voit, la mise en scène joue aussi, accentue la lumière, la scénographie joue sur cette volonté-là, mais on voit bien que c'est un endroit où les gens peuvent être en confiance, débarrassés de certains détails physiques qui leur par rapport à la télé, etc. Donc il y a une vraie... La notion de l'intimité, elle est centrale aussi à la radio.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu... Donc sur le plateau, il y a effectivement la reproduction d'un petit studio de radio avec des micros. On a même installé un petit haut-parleur qui donne un son un tout petit peu granuleux comme ça, qui n'est pas du tout celui des enceintes qu'on utilise habituellement pour le théâtre. Et effectivement, il y a aussi une petite lumière qui est posée avec aussi l'ampoule rouge qui indique qu'on est en direct. Donc tout ça permet de recréer une petite bulle sur scène.
Il y a un troisième comédien qu'on ne cite pas et qui est quand même important, qui est le technicien de Lorraine Cœur d'Acier. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est un comédien qui joue? Est-ce que c'est un technicien qui s'est un peu pris au jeu, qui doit jouer le technicien? Quel est ce personnage et quel est le comédien qui l'incarne?
Bah, c'est vrai que c'est une pièce qui est faite pour tourner un petit peu partout. Hein. Là, on est à Villechauve, dans la salle des fêtes de Villechauve. Donc, on peut s'installer même dans des lieux qui ne sont pas des théâtres à la base. Et donc, il y a ce technicien qui s'appelle Thomas Clément, qui suit la pièce. Et puis, plutôt que de le mettre en régie comme dans un spectacle normal, on s'est dit très vite que c'était beaucoup plus intéressant qu'il soit sur scène. Donc, il n'est pas du tout comédien, mais il se prend au jeu de... Donc, il ne parle pas dans la pièce, mais... On sent que la manière qu'il a d'envoyer les jingles, d'envoyer les sons, etc., il le fait comme s'il était vraiment le technicien de la radio, quoi. C'est assez, Il joue de plus en plus d'ailleurs, c'est assez marrant.
Les gestes sont propres. Hein. En tant que professionnel de la radio, on peut attester de la véracité de ces gestes, etc.
Je suis convaincu, c'est que les intellectuels se sont rendus compte que les travailleurs n'étaient pas non plus des bêtes à produire. Ils savaient réfléchir, les travailleurs. Ils savaient penser aussi.
Et au cœur de la mise en scène, il y a le Kamishibai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et nous parler du rapport entre le son de la radio, des archives, des témoignages et le visuel, cette forme que vous avez choisie de visuel pour illustrer tout ça?
Alors, le Kamishibai, c'est un art du conte japonais que moi j'ai découvert à Kyoto, au Japon, en marge du Musée international du manga. Le Kamishibai, c'est un art du conte japonais qui se joue dans la rue. Le conteur a une sorte de petite boîte dans laquelle des images sont glissées, les unes derrière les autres, et au fur et à mesure de son histoire, qu'il compte l'histoire, il glisse des images hors de la boîte qui font apparaître une image suivante, Et le musée du manga l'utilise parce que effectivement le Kamishibai, qui vient de Kami, le papier, Shibai qui bouge, c'est comme une sorte de bande dessinée animée. Et c'est vrai que j'avais envie, pour raconter cette histoire, de sortir un peu de la forme strictement du théâtre documentaire et d'apporter une dimension poétique, esthétique, artistique à cette pièce. Donc sur scène, il y a un grand Kamishibai qui est composé de 16 cases qui sont les unes à côté des autres, avec, je pense qu'il doit y avoir à peu près, j'ai jamais vraiment compté, mais plus de 150 images qui apparaissent, qui disparaissent, qui glissent et qui sont effeuillées jusqu'à ce que le Kamishibai soit vide.
Et l'idée était de se dire que, parce qu'on rentre du coup avec cette mise en scène dans le théâtre d'objets, les comédiens deviennent aussi manipulateurs du décor, hein. Ils les agencent, ils les font tomber, il y a des rectos et des versos sur certains cartons. Donc l'idée, il y avait de ne pas être seulement dans la radio, mais d'être aussi dans le théâtre, j'imagine.
Oui. Exactement. Et puis j'avais aussi envie que ce soit un peu ludique, parce que c'est une pièce qu'on a créée au départ pour jouer dans les lycées. Et donc, effectivement, sur cette idée de bande dessinée en mouvement, il y avait l'envie pour moi d'accompagner ce récit de toutes ces images qui amènent aussi une dimension poétique et ludique. Je donne un exemple, par exemple, il est beaucoup question des cadres supérieurs de l'usine. Il y a une des images qui est en haut à gauche du Kamishibai et sur lequel est inscrit cadre supérieur. Donc il y a aussi tout un jeu avec les mots, les choses qui sont dites, mais aussi les choses qui sont écrites sur ce Kamishibai.
Françoise, je crois que tu voulais dire un mot aussi.
Moi, je voulais dire un petit mot. Ça m'a appris la radio à être un petit peu moins sectaire. Ça m'a montré quand même que c'est vrai qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et comme on a le droit de réponse, c'est voilà. Au contraire. C'est
tout le monde sans exception, Françoise est...
Tout le monde sans exception. Plus des petites exceptions. Moi, je fais quelques petites exceptions.
Pour l'instant. 6 mois de radio,
encore un petit effort.
Vous m'avez appris quand même. Oui,
encore un petit effort.
C'est vrai.
Là, vous montrez une forme de radio assez libre et révolutionnaire. Dans le théâtre aujourd'hui, en 2024, dans votre pratique théâtrale, quels sont un peu les espaces de liberté qui pourraient être comparables, où la parole est donnée à des gens qui n'ont pas forcément...
J'en vois beaucoup, hein, des formes comme celle-ci. Je dirais que ces derniers temps, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de thématiques autour de la question du genre, de la communauté queer, de la communauté LGBTQIA+, qui s'expriment dans les pièces, qui sont des personnes qui sont très clairement marginalisées. Et je vois de plus en plus, et j'en accueille aussi au Théâtre Olympia, dont j'ai pris la direction il y a quelques mois. Donc, à cet endroit-là, c'est vrai que le théâtre peut être aussi très, très militant. Il y a beaucoup de pièces qui endossent aussi des récits de vie, des récits d'émancipation et beaucoup de théâtre documentaire en ce moment.
Eh ben, merci Bérangère Ventuso, donc alors directrice du CDN de Tours, c'est ça ?
Exactement.
Et donc metteuse en scène de ce spectacle Longueur d'onde, qu'en tant que professionnelle de la radio, donc qui nous a beaucoup parlé.
Merci.
On est à l'antenne, Pascal ? Oui. C'est Michel ?
Oui.
Manuel à notre micro. Il est étudiant au CET.
Comment c'est votre prénom à vous ?
Pierrette.
Alors Janine est femme de ménage.
C'est quoi ton prénom? Fabrice.
Je te remercie, Marie-Paul.
Au micro de Lorraine Cœur-d'Acier, une commerçante de Longrio qui est venue nous voir.
André, tu voulais dire un mot?
Merci, Jackie.
Marcel, on a aussi dans nos studios un camarade du Dinor. Tu travailles à quel secteur?
Je suis dans le contrôle énergétique, je suis à SNEL.
Marinette, qu'est-ce que tu en penses?
Léonard, un peu de musique, s'il te plaît.